Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 24 juin 1992.
Puisqu'on est en éthique religieuse, ayez une prière d'action de grâce, puisque le père John Thomas est rentré dans la nuit. Et donc, ils sont tous rentrés. Et il m'a dit tout à l'heure qu'il y avait eu des moments très, très dangereux. Très pénibles et très durs. Il est grand, donc il est une cible. C'était... On l'a vu à la télévision, tu vois. On l'a tout de suite remarqué. Il a dit qu'il y avait des grands et des petits dans la communauté Saint-Jean. C'était comme ce père dominicain qui était assez particulier, qui enseignait l'éthique, la philosophie éthique à Fribourg. Un beau jour, c'est tout à fait au début que tu es arrivé. Un beau jour, il arrive, puis il dit, j'ai un Égyptien dans mon cours. C'est tout à fait le type de l'Égyptien. Il est petit et gros. Puisque c'était son cousin, m'a dit, je suis égyptien aussi, et je suis grand et maigre. Alors, il prend un air très grave. Il y a deux types d'égyptiens. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'on voit, qui était un témoignage de rappeler un aspect humanitaire, c'était ça, et pas du religieux, pour bien montrer que dans des circonstances graves, quand on est dans une morale laïque, on ne sait plus quoi faire, on perd pédale. On peut dire que les hommes perdent pédale aujourd'hui. Quand ils sont d'un point de vue purement humanitaire, laïque, et que le point de vue religieux, à ce moment-là, redonne une conviction nette. Alors, voilà quelques questions, hein, et puis on va continuer. Peut-on dire, au plan philosophique, que l'homme est fait pour voir Dieu tel que Dieu lui-même se voit? Non, je ne peux pas dire ça au point de vue purement philosophique. La révélation me dit que je suis fait pour voir Dieu tel qu'il se voit, tel qu'il est. Et c'est la foi. Et saint Thomas, quand il se pose la question, la foi est-elle nécessaire? Il dit la foi est nécessaire pour connaître avec exactitude quelle est la finalité de l'homme. L'homme est fait pour voir Dieu tel qu'il est. Donc c'est une question de foi. Le philosophe peut dire que l'intelligence humaine est faite pour connaître la vérité, pour connaître ce qui est comme tel. Et donc, il doit remonter à la source de tout ce qui existe. Il doit remonter jusqu'au Créateur. Et il cherche à le connaître. Mais c'est les limites de sa connaissance. Il sait qu'il peut affirmer l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Mais il sait que par lui-même, il ne peut pas connaître Dieu tel qu'il est. Mais il a soif de le connaître. C'est autre chose. Il a soif de le connaître. C'est pour ça qu'il y a un désir naturel de voir Dieu. Mais le désir naturel de voir Dieu ne dit pas que je le verrai tel qu'il est. Est-ce qu'on peut vivre de désir? Autre question. Pouvez-vous préciser ce qu'est le sacré? Quelle place place y a-t-il dans l'éthique humaine et dans l'éthique religieuse? Il me semble... Vous savez, il faudrait faire toute une petite... Ce serait intéressant, du reste. Au point de vue philosophique. Il faudrait faire toute une petite topique sur le sacré. Chez les Grecs, le sacré, c'est le divin. Tout ce qui est relié immédiatement à Dieu est divin. C'est pour ça qu'Aristote dit que l'intelligence, le nous, est sacré, est divin. Il ne dit pas sacré, il est divin. La métaphysique, la philosophie première, a un aspect divin, puisqu'elle peut atteindre l'existence de l'être premier, Dieu. Et alors, le mot divin, chez les Grecs, égale ce qui est au-delà de la corruption. Donc, ce qui est éternel. Divin égale éternel. Alors, je crois qu'on peut dire que, avec le christianisme, on a précisé que Dieu, en tant que Dieu, est unique. Le monothéisme, c'est la première affirmation de toute la révélation. Et que le divin des Grecs, c'est-à-dire ce qui est éternel, au-delà de la corruptibilité, c'est le sacré. Je crois que le sacré, c'est ce qui atteint immédiatement ce qui est éternel, ce qui est au-delà de la corruptibilité. Le sacré au sens fort. Mais vous voyez, il n'y a pas de détermination, c'est la différence avec le religieux et le sacré. Le religieux atteint le Créateur comme Créateur. Donc tout religieux est sacré, tout aspect religieux est sacré. Le sacré, c'est ce qui transcende le corruptible, ce qui dépasse le corruptible, donc ce qui est éternel. Mais ce n'est pas déterminé par rapport à une personne. La zone du sacré, quelque chose qui est au-delà du corruptible. Et je crois que ça correspond au divin grec. Le livre de Otto, qui est intéressant au point de vue du sacré, c'est dit que le sacré crée en nous, suscite en nous un tremendum. Vous voyez, Moïse, quand il voit le buisson ardent, il ôte ses chaussures. Ce lieu est sacré. Ce lieu est divin. Alors, on est en présence d'une réalité qui nous transcende. Oui, c'est une présence de quelque chose, de quelqu'un qui nous dépasse. Et je crois que le sacré, c'est justement ce qui provoque en nous ce tremendum, cette crainte, ce tremblement, qu'on est en présence de quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est la transcendance, la relation vers la transcendance indéterminée. Dans ce sens-là qu'on dira que l'art sacré est distinct de l'art religieux, est distinct de l'art chrétien. Les trois touchent quelque chose de transcendant, au-delà de tout le visible. Tout visible est incorruptible. C'est au-delà du visible. Alors, Le sacré, c'est tout simplement ce qui est au-delà du visible. Le religieux touche le Créateur. Et le chrétien touche le Sauveur. C'est le Christ. Il y a trois zones. Et je crois qu'on doit toujours les distinguer. Alors je suis tout à fait d'accord que le sacré, au point de vue éthique, c'est le fondement de l'éthique religieuse. L'éthique religieuse touche le sacré. Et comme on est au niveau philosophique et que cette attitude religieuse atteint le Créateur, c'est un sacré déterminé qui provient du Créateur. Parce que tout sacré provient du Créateur. Mais si je n'ai pas saisi la source de ce sacré, je reste en phase du transcendant. Celui qui a découvert l'existence du Créateur, celui qui dans sa foi sait qu'il y a un Créateur, sait qu'il y a de fait dans notre monde des zones sacrées, tout ce qui est au-delà du corruptible. Et que ça provient nécessairement du Créateur. Enfin, c'est l'esprit, si vous voulez. L'esprit est sacré. Dans l'homme, il y a quelque chose de sacré. C'est Plotin, l'Énéa de Plotin, qui est si belle, qui dit « Pourquoi, ô homme ?» C'est une exhortation. Hein. « Pourquoi, ô homme ?» dans la distraction. Vivre dans la distraction, c'est vivre dans le multiple. C'est vivre dans le temporel. C'est l'économie. C'est la distraction. Au terme plotinien. Et tu oublies ce qu'il y a de divin en toi. Tu oublies ce qu'il y a de sacré en toi. Il y a une étincelle de divin en toi. C'est l'âme spirituelle. Et cette âme spirituelle est au-delà du monde visible. Et cette âme spirituelle est faite pour Dieu. Alors, il rappelle que l'homme se laisse prendre par la distraction à cause du sensible. Le sensible est toujours une distraction. Sauf pour le chrétien. Puisque par l'incarnation, le sensible est uni au divin. Et que le corps du Christ est divin. Il est sacré. Alors ça, c'est le propre du chrétien, de voir que le divin assume le sensible. Tandis que, au plan philosophique, je peux dire que le sensible reste toujours corruptible, et donc n'est pas le sacré. Je n'atteins pas Dieu par mon corps. Je n'atteins Dieu que par mon esprit. Au plan philosophique, c'est net. Tandis que la foi dans le Christ me permet, à travers le corps du Christ, d'atteindre Dieu. À travers les sacrements, j'atteins Dieu. Les sacrements ont toujours un élément sensible. L'Église est un lieu sacré. Et elle implique un élément visible. Dans le mystère des sacrements. Vous voyez, la coupe du sacré et du profane n'est pas la même en philosophie et en théologie. C'est ça qu'il faut comprendre. La révélation change la distinction du sacré et du profane. Parce que qui dit sacré s'oppose au profane. J'ai mieux profane que laïque. Laïque, c'est très équivoque, laïque. Le religieux est un laïc. Oui, indifférence du clérical. J'aime mieux profane et sacré. Alors, le partage du sacré et du profane n'est pas le même chez le philosophe et chez le chrétien. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre en éthique. En éthique religieuse, je distingue le le profane et le sacré. Et le sacré, c'est ce qui permet d'être immédiatement relié à Dieu. Par l'adoration, j'ai une zone de sacré en moi. Quelqu'un qui adore est relié à Dieu. Et au sens très fort, je n'ai pas le droit de le toucher. Et il serait très curieux à voir ça. Je dois respecter un blessé. C'est inhumain de ne pas respecter un blessé. Vous voyez, d'achever un blessé. Vous voyez ce que je veux dire? On voit un blessé sur un temps de guerre. Ou bien tout simplement dans un hôpital, un blessé. Achever, euthanasie. Ah, il saute trop, je vais couper la tête. Je donne le petit cocktail, il partira dans quelques heures, tout doucement. Vous allez dormir, ce qu'on leur dit, vous allez dormir très paisiblement. Et alors il pose la question, est-ce que je vais me réveiller? Alors elle ne vous répond pas. On n'a pas le droit d'achever un blessé, n'importe quel blessé. C'est-à-dire celui qui devient incapable de se diriger lui-même. Et blessé, celui qui est incapable de se diriger lui-même. Alors qu'il était capable avant. Alors il est blessé. On n'a pas le droit. On le respecte. Non pas parce que c'est du sacré. Mais parce qu'il est incapable de répondre. Et donc je dois être sa providence. Et je dois le respecter comme je me respecte moi-même. Et puis, il y a le sacré. Le sacré appartient à Dieu. Et c'était cette loi ancienne des traditions religieuses que quelqu'un qui est sur un terrain sacré, on n'a pas le droit de le poursuivre. La police n'a pas le droit de pénétrer dans l'église pour prendre un... C'est du sacré. C'est ce qui explique comment dans les vieilles églises, il y a encore des os, des la marque autour de l'église, il y avait des frontières. C'est la frontière du sacré. Terrain sacré. Ce lieu est saint. Ce lieu est sacré. Et alors, on n'a pas le droit de toucher au sacré. Et dans certaines religions, la vache sacrée, on n'a pas le droit de la tuer. Elle est sacrée. Elle est consacrée à Dieu. Elle est reliée à Dieu. Donc, ces terrains divins, ça appartient à Dieu. L'homme n'a pas le droit d'y toucher. Alors, il arrive, vous voyez, à bien distinguer ce sacré religieux. Le sacré, tout simplement, le point de vue. L'incorruptible. Et puis, la sainteté. Simplement cette orientation de préciser ce que relève exactement le sacré. Je crois que philosophiquement, ça se distingue du profane. Et c'est justement ce qui est relié directement à Dieu. Enfin, dernière question. Le suicide, pour défendre la cause religieuse, est-ce un martyr? Et la mort, dans la défense de l'autre, de l'autre personne. Le suicide, si je prends le suicide au sens tout à fait rigoureux, c'est se donner à soi-même la mort. Donc, pour défendre la cause religieuse, on ne se suicide pas. Jésus ne s'est pas suicidé. Mais, très facilement, un marxiste, je l'ai entendu de mes propres oreilles, par des jeunes marxistes, ont dit, nous ne comprenons pas que vous aimez le Christ qui s'est suicidé. Parce qu'il ne s'est pas défendu en face de la mort. Ce n'est pas un suicide du reste. Est-ce que Socrate s'est suicidé? Non, il a obéi aux lois. qui ne s'est pas suicidé. C'est un acte de puissance héroïque. Et c'était considéré comme ça dans l'Antiquité. Alors on peut discuter, est-ce que en terre chrétienne, est-ce que Socrate aurait pris la ciguë? Ça c'est différent, tu vois. Il était en terre païenne, où les lois de l'État avaient quelque chose de sacré. Alors, il obéit aux lois de l'État, parce qu'elles sont sacrées. C'est pas un suicide. C'est tout simplement un témoignage d'obéissance aux lois. En terre chrétienne, ce serait différent. Puisqu'il y a le point de vue de l'État a perdu son caractère sacré. L'empereur n'est plus un dieu. Le christianisme nous a libérés de cela. Ça, c'est sûr. Ça donnait un sens plus à la fois plus précis du sacré et plus étendu. C'est très curieux. Point de vue compréhension et point de vue extension. Il a changé les limites du sacré et du profane. Et on voit ça très nettement aujourd'hui, vous voyez, dans cette laïcisation. Il n'y a plus de distinction entre le sacré et le profane aujourd'hui. On veut faire croire que l'homme est tout puissant. Alors ce n'est plus l'empereur, c'est la démocratie qui est toute puissante. Ce qui est pire, parce que c'est l'anonymat, c'est la tour de Babel. Le symbolisme de la tour de Babel, c'est ça. C'est que l'homme atteint le ciel et n'a plus aucune autorité supérieure dès que la collectivité l'a décidé comme ça. C'est la démocratie sacrée, vous voyez. Ou la sacrée décroissance, cette démocratie. C'est le libéralisme absolu. Et ça, c'est le symbolisme de la tour de Babel. Il n'y a plus de place pour le sacré dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois que c'est l'orgueil collectif de l'humanité. Alors, vous voyez, suicide pour défendre la cause religieuse, il faudrait comprendre. A-t-on le droit d'offrir sa vie pour la cause religieuse? Oui, on a le droit de défendre le mystère de l'adoration. Alors il faut voir prudemment dans quel cas on doit le faire. Comme toujours, il s'agit d'un acte humain, et donc la prudence est toujours présente. Et il y a le dépassement de la prudence dans le cas du martyr. Il faut savoir si on doit le faire ou pas le faire. Mais je crois que on peut dire que dès qu'il y a quelque chose de religieux, donc qu'on touche le point de vue du Créateur, ce qu'on disait la dernière fois, il peut y avoir, par l'adoration, par la vertu de religion, il peut y avoir cet acte héroïque de force qu'est le martyr. Mais c'est pas un suicide. La mort dans la défense de l'autre personne. L'acceptation de mourir pour un autre, le père Maximilien Kolb. Alors ça c'est chrétien, là. Est-ce que dans une éthique religieuse et purement religieuse, est-ce qu'on pourrait donner sa vie pour sauver l'autre? Ou est-ce que c'est typiquement chrétien? C'est une chose importante à voir, ça. Je crois qu'en éthique purement religieuse, puisqu'on sait que l'âme est créée par Dieu, il y a donc dans la dignité humaine quelque chose d'absolu. Et je peux considérer que telle personne, étant donné sa dignité, et quand je parle de sa dignité, c'est sa responsabilité, je peux m'offrir pour lui. Je crois. Un acte. et la dignité de la personne comme étant justement quelque chose de divin. Je peux m'offrir pour un plus faible. Je peux m'offrir pour quelqu'un qui, à mes yeux, est beaucoup plus important pour les autres que moi-même. Au point de vue chrétien, c'est net. Et au point de vue religieux, je crois qu'on peut. Dans la mesure où on accepte qu'il y a martyr au niveau religieux. Et c'est toujours le mystère du Dieu créateur. Oui, je ne conclus pas avec. Je dis qu'il faut chercher ça. Ce sont des choses qui deviennent très actuelles. Ça devient très actuel, ces choses-là.
En fait, ça dépend de l'intention de celui qui offre sa vie. C'est très difficile de savoir.
Il y a plus, puisqu'il y a un témoignage. Point de vue de l'intention, vous ne pouvez jamais juger les intentions. Or là, on cherche quelque chose de plus, puisque le martyr est un témoin. Donc il y a un élément visible. Vous voyez ? On dirait qu'il y a du fort externe. Vous voyez ? On n'est pas martyr uniquement au niveau de l'intention. On serait tous martyrs au point de vue de l'intention. On est martyr quand on porte le drapeau. Porter l'habit religieux fait que vous êtes plus facilement martyr que si vous ne le portez pas. Donc en portant l'habit, on se met dans une voie plus proche du martyr. C'est sûr ça, j'en suis sûr. Très vite ça. Parce qu'au fond, il y a une vieille colère. Chez ceux qui vivent une laïcité parfaite, du moins qui veulent vivre une laïcité parfaite, parce qu'elle n'existe pas. Laïcité parfaite n'existe pas. Il y a une vieille rancœur contre le religieux. Et alors, on voit un religieux en habit. Vous voyez, c'est comme le rouge pour le taureau. Ça réveille des tas de choses. C'est ça, c'est très très net. Ça réveille des tas de choses. Ou ça réveille le point de vue religieux, si on est encore religieux, si on a encore en soi cela. Je me souviens, avec des amis, c'était très curieux. Ils m'avaient invité à un petit restaurant italien. Alors, les serveurs étaient italiens, tout de suite, au bout de 5 minutes, il est venu me trouver, il dit, ah, j'ai mon fils qui n'est pas baptisé. Et c'était en dehors du service. Hein. Parce qu'il y a un présent sur l'île. Est-ce que vous ne pourriez pas venir le baptiser? Entre, vous comprenez, la poire et le fromage. On porte un drapeau. Le drapeau de la Vierge Marie, le drapeau du Christ. On est porteur de drapeau. Et on fonde que ce drapeau prend toute notre vie. Donc, engage notre vie, si on est fidèle. Et on est en première ligne. Ça, c'est évident, on est en première ligne. Et c'est pour ça que si l'anarchie, la révolution arrive, on dira... Vous êtes libre de porter l'habit ou de ne pas le porter. Parce qu'on ne peut pas engager tout le monde à un martyr immédiat. Mais vous êtes libre. Parce qu'il faut des témoins. Le Saint-Père réclame l'habit pour qu'il y ait des témoins. Dès qu'il n'y a plus de témoins, ça prouve que il n'y a plus de drapeau dans l'armée. On sait ce que ça veut dire. C'est très significatif, vous voyez, quand on essaie de comprendre en éthique religieuse ce que ça veut dire. On se distingue pour être porteur d'un drapeau, qui est la présence, pour nous en tant que chrétiens, la présence du Christ ou la présence du Dieu créateur. Vous voyez, ce sont des questions qui sont très importantes aujourd'hui. Mais pour ça, il faut bien distinguer l'éthique fondamentalement humaine, l'éthique ou religieuse, l'éthique chrétienne. Alors, je continue. Nous étions restés la dernière fois à voir comment la vertu de religion dans son exercice transforme les vertus cardinales. La prudence par rapport à l'amitié, le point de vue de la justice, le point de vue de la force. Il nous restait le point de vue de la tempérance, de la chasteté et l'esprit de virginité. La vertu de religion va commander par rapport à l'exercice de la vertu de tempérance le point de vue de la cèse religieuse. Ça existe et de vieille date. Le petit déjeuner d'un moine n'est pas le même que le petit déjeuner de l'homme du monde. Hein ? Faut pas laïciser la religieuse. Et on doit tout le temps y penser. Et d'autre part, on vous dit aussi, vous êtes jeune, vous pouvez pas jeûner toute l'année. Et vous devez travailler. C'était la définition que me donnait le bon père Eris. Je lui demandais, je me souviens, à propos de la cèse religieuse. Le père Eris était un homme intelligent, vraiment un théologien au point de vue du dogme. Alors il m'a dit, et je crois que c'est très juste, on n'a pas le droit de jeûner d'une manière excessive qui nous empêcherait de faire notre devoir d'État. Autrement, on devient stylite. Vous savez ce que c'est que le stylite, hein ? Le stylite, il est sur sa colonne. Alors, vous ne l'êtes pas, il faudrait beaucoup de colonnes, hein, dans le parc des hommes. Alors, est-ce que le stylite est vraiment chrétien ou pas ? Ça, c'est autre chose à poser la question. Ça, c'est la cèse poussée jusque-là. C'est très, très curieux. Mais ça existait. Donc, ça pose un camp. Alors, est-ce que c'est une cèse typiquement chrétienne ? Est-ce que c'est une cèse religieuse ? Est-ce que de temps en temps, le religieux empiète sur le chrétien ? Ça existe. Il y a des moines. Dans toutes les religions, le moine chrétien n'est pas un moine tout court. Et la vie monastique est changée avec le point de vue chrétien. Il y a des ascèses religieuses poussées à l'extrême. A-t-on le droit, par exemple, de pousser l'ascèse d'une façon telle qu'on est sûr de tomber malade? C'est vrai, on sent très bien. Dans toute sa vie religieuse, on a tous cette expérience, quand on veut aller jusqu'au bout des exigences de la vie religieuse, qu'on peut pousser ça de manière telle qu'on veut dominer totalement son corps. Alors, la domination de son corps, qui est la cèse ? Dominer ses passions et dominer son corps. Est-ce que c'est un absolu ? Bien, ce n'est pas un absolu. La cèse est en vue de la croissance de l'amour. Au point de vue chrétien, c'est très très net. Et au point de vue religieux, la cèse est en vue de l'adoration et de la contemplation. Ça me semble très net. Alors, le petit déjeuner du matin, le comment du petit déjeuner du matin, le point de vue psychologique du petit déjeuner du matin, au niveau proprement religieux. Je ne parle pas du point de vue chrétien, du point de vue religieux. Il faut que nous le prenions le point de vue de la tempérance, transformé par l'adoration, pour nous permettre de faire notre devoir d'État. Oui. Notre devoir d'État de religieux. On est des religieux qui avons des cours. C'est-à-dire qui demandent un exercice de l'intelligence. On peut aller plus loin dans le jeûne quand il s'agit uniquement d'un point de vue d'un travail temporel. Le travail intellectuel réclame normalement, si vous avez des habitus très très forts, ça va. Mais normalement, celui qui n'a pas d'habitus, qui n'a pas encore l'habitus métaphysique, qui n'a pas encore l'habitus de sagesse, et qui peine pour ça, ben, il faut prendre la nourriture qui permet d'assister à la messe sans dormir, et de pouvoir suivre les cours sans dormir, et sans mal de tête. Ça, c'est sûr. La finalité dans ça, il ne faut pas que la vertu, il faut pas que l'exercice de la vertu de tempérance pousse la cesse à un tel point que vous vous rendez malade. Votre devoir d'État n'est plus accompli. Vous voyez ? Alors, c'est la prudence qui doit venir régler la tempérance, la vertu de tempérance. Qui implique le jeûne. Au point de vue purement humain, dans une éthique fondamentalement humaine, on ne parle pas beaucoup de jeûne. L'ami ne peut pas dire à mon ami, eh bien, pour montrer que tu m'aimes, demain, tu ne prendras pas de petit déjeuner. Hein. L'ami n'a pas le droit de dire ça. Tandis que Dieu a le droit de nous dire demain, eh bien oui, tu feras un effort, tu jeûneras au pain et à l'eau. Mais Seigneur, je dois suivre des cours. Alors, est-ce que vous me dispensez des cours? Moi, je veux bien. Je veux bien prendre uniquement du pain et de l'eau. Alors, je ne sais pas ce que je ferai. Je dois faire des cours ou je dois en donner. Vous voyez, il y a là quelque chose de très important à comprendre au point de vue vertu de religion. Le devoir d'État dans l'obéissance, puisque l'obéissance joue un rôle si important dès qu'on est au niveau éthique religieuse. Et dans l'éthique chrétienne, l'obéissance joue encore un rôle plus important. Il y a donc à la fois une ascèse beaucoup plus poussée. La naissance de l'ascèse au point de vue religieux, la naissance du jeûne, et en même temps, c'est relatif ou relativisé avec mon devoir d'État. C'est pour ça que je ne peux pas juger selon les apparences. Selon les apparences, je dirais, ces moines sont vraiment complètement dans un état de déliquescence. Du beurre au petit déjeuner, de la confiture au petit déjeuner, vraiment, fou là là. Au Moyen-Âge, c'est pas comme ça que ça se passait. Et on est loin de la 16. Oui. Je peux pas juger de l'extérieur. Parce que je ne vois pas la capacité de résistance. Mais si j'ai affaire à quelqu'un qui est capable, pendant tout le carême, à 16, il prendra du pain, un peu de pain, un peu de liquide chaud, et même si peu, une ou deux fois par semaine, petit déjeuner au Carmel, c'est ce qu'on faisait, et les Carmels, ils te prenaient rien le matin. Dans le temps passé, j'ai encore connu ça. Maintenant, elles voient que les jeunes ne peuvent plus, n'ont plus la même résistance, peut-être parce qu'ils n'ont plus les mêmes vertus aussi. La domination du corps n'étant plus. noviciat. Le jeune noviciat aura une assaise par à coup. Alors là, ce sera flamboyant. Mais le lendemain, il se rattrapera. C'est comme ça qu'on acquiert petit à petit la vertu. La vertu nous permet de maintenir toute l'année. Vous voyez, il faut réfléchir là-dessus. On doit réfléchir sur ce qu'est la vertu de tempérance pour un religieux, pour une âme religieuse. Avec le mois de l'ascèse, l'ascèse existe toujours. Elle a des modalités différentes. C'est pour ça que la vertu de tempérance, sous la conduite, sous l'action de la vertu de religion, fait que il y a des temps de jeûne et d'ascèse. Chez toute âme religieuse, chez le chrétien, c'est bien net, il y a le carême. Je ne peux pas parler du carême au point de vue religieux. Mais je peux voir que dans toute attitude religieuse, chez les pythagoriciens, il y avait des aliments qu'on prenait, des aliments qu'on prenait pas, des aliments purs et des aliments impurs. C'est pas l'aliment qui est impur. Il est impur par rapport à l'homme qui cherche à acquérir la vertu de tempérance, à acquérir une certaine ascèse. On n'a pas le droit de se dire « Oh, l'ascèse, ça n'existe plus. » Pas du tout. Ça existe. C'est la vertu de religion qui agit sur le point de vue de la vertu de tempérance et qui pousse la vertu de tempérance plus loin en vue d'une finalité. Dominer son corps. Non pas pour le plaisir de le dominer. Ce serait uniquement artistique, ça. Ce serait uniquement stoïcien. Dominer son corps pour vivre une adoration plus parfaite et un travail plus parfait. Dominer son corps. Dominer son corps pour prier. Dominer son corps pour contempler. Il est sûr que si on a mangé entièrement à sa faim, on aura de la peine après d'adorer. Or, on doit être tout le temps capable d'adorer. Alors, l'adoration devient la mesure. C'est ça qui est très cru, et c'est ça l'âme religieuse. L'adoration devient la mesure de l'exercice de ma vertu de tempérance. Je peux pousser plus loin. Dans la vertu de tempérance, il y a la vertu de chasteté. Et la vertu de chasteté sera justement dominer son corps par rapport à ce que peut représenter le point de vue de l'appétit naturel au point de vue sexuel. Dominer son corps pour pouvoir adorer. Alors il faut se demander... Si la vertu de religion permet d'aller jusqu'au bout de la chasteté dans l'esprit de virginité, puisque l'esprit de virginité, c'est pousser la vertu de chasteté à l'extrême, une chasteté parfaite, en vue de l'adoration. Je parle ici au point de vue éthique chrétienne, éthique religieuse. Je crois que l'éthique religieuse implique l'esprit de virginité. Alors on verra ça la fois prochaine.